Depuis maintenant quelques années, ChatGPT bouleverse notre quotidien, que ce soit pour effectuer une recherche rapide, pour rédiger un texte, pour générer une image, nous sommes des millions de personnes à l'utiliser chaque jour. Pourtant, l'intelligence artificielle existe depuis longtemps et se retrouve dans notre quotidien bien plus souvent que tu ne le penses. Alors, au fait, c'est quoi l'intelligence artificielle? Comment ça fonctionne réellement, ChatGPT et les autres IA génératives? Et surtout, quels sont les enjeux cachés derrière cette révolution technologique? Dans cet épisode, on va explorer le monde de l'IA grâce aux experts, chercheuses et chercheurs de l'Université de Namur. Et ainsi, répondre à toutes tes questions sur l'intelligence artificielle.
Au fait, le podcast scientifique à l'écoute de tes questions.
Aujourd'hui, plus de 800 millions de personnes utilisent chaque semaine ChatGPT. Et ici en Belgique, plus d'un quart de la population aurait déjà discuté avec l'application de l'entreprise américaine OpenAI. Alors, pour commencer cet épisode, on a décidé de vous tendre le micro pour vous demander un petit peu, selon vous, comment est-ce que ça fonctionne, ChatGPT ?
Bah, je sais que c'est l'IA qui est derrière ça, on a fourni à l'IA toutes les informations qui se trouvent sur Internet et ensuite elle les réutilise. Je pense que c'est comme ça, mais j'en sais pas plus.
ChatGPT, il me semble que c'est une algorithme qui sert à regrouper toute une série d'articles scientifiques ou non, toute une série d'articles en rapport avec un thématique et formuler une réponse à partir d'une série assez impressionnante de sources.
Je sais que ça fait fondre des glaciers et tout ça, mais comment ça fonctionne et tout ça, je sais pas. Je sais que c'est plein de données qui sont, je suppose, dans un très grand logiciel. Mais sinon, non, je sais pas.
Bon, c'est pas évident tout ça. Et peut-être que pour toi aussi, ça reste un petit peu mystérieux, ces notions d'IA, d'algorithme et de logiciel. Pour clarifier un peu ces idées, on a posé la même question à Benoît Freinet. Il est professeur d'informatique à l'Université de Namur et spécialiste de l'intelligence artificielle.
Quand on va construire une IA, généralement, on a envie de l'aider, de lui expliquer ce qu'elle est censée faire. Donc, par exemple, si je veux créer une IA classique de diagnostic, eh bien, je vais présenter à un programme des exemples de patients qui étaient malades ou pas, et l'IA, en fouillant les données, va se rendre compte, tiens, tel test sanguin, en fait, il est déterminant pour décider si cette personne est malade ou pas. Dans le cas de la génération de textes, d'images, etc., on n'a pas cette supervision, on ne sait pas vraiment quelle est la tâche à réaliser. Et donc, ce qu'on a trouvé comme astuce, un peu avant de chez GPT, c'était de prendre d'énormes quantités de textes, de cacher des mots, et ensuite de demander à une IA, retrouve-le le mot qui était à cet endroit-là. Ça, c'est ce qu'on appelle des modèles de langage, des LLM, Large Language Models, en anglais. Et ChatGPT, ça n'est rien que ça.
Le mot IA, il est en train de complètement changer de sens depuis 2020, depuis l'avènement de ChatGPT, etc. Maintenant, quand on mentionne l'IA, on pense principalement à l'IA générative qui génère du contenu, et particulièrement l'IA générative de texte. Et encore plus aux assistants personnels qu'on fait sur base de ces IA-là. Parce qu'en vrai, on pourrait utiliser les modèles qui sont derrière ChatGPT, etc., pour générer n'importe quelle sorte de texte, mais on les a mis dans des espèces de programmes qui les transforment en assistants personnels qui sont là pour répondre à nos questions. Et donc, pour le grand public, l'IA, ça ressemble beaucoup à ça. Un truc où je peux poser une question, je peux obtenir une réponse, et ça sait parler de façon cohérente.
Comme nous l'explique Simon Lejoly, doctorant en informatique, quand on parle aujourd'hui d'IA, on fait bien souvent référence à des chatbots, comme ChatGPT, Gemini ou encore Claude, qui sont en réalité des IA génératives. Mais l'intelligence artificielle en tant que telle, le fait de réaliser avec un ordinateur des tâches d'apprentissage complexes, c'est bien plus vieux. Ce terme est en effet apparu dans les années 50, créant alors un domaine de recherche scientifique impressionnant, menant à de nombreuses technologies actuelles.
En fait, de l'IA, on en a déjà partout. Donc, il faut bien se rendre compte que, par exemple, une recherche Google, c'est de l'IA. Donc, de l'IA, on en a déjà partout dans les téléphones, par exemple, les filtres intelligents, l'autocomplétion. Dans la vie de tous les jours, des gens qui ont des appareils pour le diabète, il y a de l'IA dedans. Dans les voitures, il y a énormément d'IA un peu partout. Donc, en fait, de l'IA, on en a depuis des dizaines d'années dans pas mal de choses. Simplement, maintenant, c'est devenu encore plus visible parce qu'on peut interagir maintenant vraiment de façon textuel.
Si ChatGPT est devenu pour certains un nouveau Google, une nouvelle façon de réaliser des recherches, il ne fonctionne pourtant pas du tout de la même manière. Michael Lobet, professeur de physique et membre du conseil de l'IA à l'Université de Namur.
le moteur de recherche va nous rediriger vers la page où du contenu est déjà préexistant, a été généré par une personne indépendante. Ici, non, la machine va essayer de prédire une suite de mots logique, cohérente, en minimisant une erreur par rapport à un objectif donné, une requête donnée.
En tant qu'enseignant, Michael a pu voir et analyser à quel point chaque avancée technologique des IA génératives modifiait les pratiques dans le monde scolaire, tant chez les étudiants que chez les enseignants.
Et donc quand tu mets tout ça bout à bout, on dit mais ça va être une révolution de l'enseignement. Et là je pense que ça c'est vraiment ce qui a motivé ma curiosité de me dire mais oui en fait, comment est-ce que ce nouvel outil, ces nouveaux outils d'IA générative peuvent être implémentés en classe? J'ai commencé à prendre des mesures sur ce qui se passait en classe, comment les étudiants, quels étaient les usages des étudiants face aux IA, à quelle fréquence ils l'utilisaient, etc. Essayer de comprendre la relation étudiant-outil d'IA générative, ça m'intéresse, ça me préoccupe. Voir comment elle a évolué. Déjà, en 3 ans, on a vu des évolutions drastiques.
Parmi les usages les plus fréquents des étudiants, on retrouve principalement cette fonction de recherche qui leur permet de mieux comprendre la matière. Mais beaucoup d'entre eux l'utilisent aussi pour la résolution d'exercices ou pour s'entraîner sur des questions d'examen. Loin de vouloir interdire ces chatbots, les professeurs de l'Université de Namur encouragent les étudiants à les utiliser de façon raisonnée et responsable. Pour cela, de nombreux cours intègrent l'IA tout en sensibilisant les étudiants aux bonnes pratiques, mais aussi aux limitations de l'outil.
Le conseil pratico-pratique que je donnerais, c'est d'abord se former pour bien comprendre ce que c'est l'intelligence artificielle générative, comprendre qu'il est capable d'halluciner, qu'il est capable d'aller dans votre sens, hein, la flagornerie sociale qu'on appelle ça. Donc, il va te dire « Ah ben oui, tu as raison, oui, tu es le meilleur ». Mais c'est pas comme ça qu'on apprend. On apprend aussi en se trompant et en étant corrigé sur nos erreurs. Et si vous êtes dans un contexte d'apprentissage, c'est super important d'avoir ce feedback, mais qu'il soit honnête. Pas quelqu'un qui dise « Mais oui, tu as raison, mais en fait, t'as répondu à côté ».
Si l'intelligence artificielle fait autant parler d'elle, c'est aussi parce qu'elle soulève de nombreuses questions éthiques. Et ça nous semblait important de faire le point là-dessus dans ce podcast. Déjà, d'un point de vue environnemental, l'utilisation des IA génératives est loin d'être neutre, comme nous l'explique Benoît Freinet.
Alors c'est très très compliqué en fait, parce que clairement, l'IA a un coût. Si on regarde ce qu'on va produire avec de l'IA, en fait, si on est par exemple sur des très courts textes, ça peut encore aller. Là, l'impact n'est pas énorme. Par contre, quand la longueur des textes va s'allonger, ou lorsqu'on va commencer à générer des images ou des vidéos, là, on monte vraiment en ordre de grandeur. Avec certains moteurs de génération de vidéos, générer une courte vidéo revient parfois à plusieurs charges de GSM.
Pour avoir une idée de l'impact environnemental de ces IA génératives, on peut regarder ce qui est consommé à chaque étape de son utilisation. Tout d'abord, le processus de création d'une IA générative consomme à lui seul beaucoup d'énergie, avant même qu'elle ne soit mise en ligne. En effet, il est nécessaire d'entraîner le modèle pour qu'il puisse ensuite répondre correctement aux requêtes. Mais pour faire fonctionner l'IA, il est nécessaire d'avoir ce qu'on appelle des data centers, des grands bâtiments qui renferment les machines permettant aux IA de tourner. Et ces bâtiments, il faut bien évidemment les construire, mais aussi les alimenter en électricité et en eau pour pouvoir refroidir les cartes graphiques. Sans oublier que chaque composant électronique qui compose ces cartes graphiques renferme des matériaux rares qu'il faut également extraire. Bref, comme tu le vois, avant même d'utiliser une IA générative, l'impact environnemental est déjà très impressionnant.
Ça veut dire que globalement, à l'échelle d'un pays, parfois on se dit ben, « c'est pas si catastrophique que ça ». Mais localement, ça peut être un réel problème. Ça peut représenter plus de dizaines de pourcents de l'approvisionnement d'eau d'une grande ville, juste pour le data center. Donc c'est loin d'être négligeable. Mais dans le cas des IA comme chez GPT, il y a une troisième phase qui est celle de l'utilisation. Et là, on a un énorme problème, c'est qu'on a potentiellement des centaines de millions, voire des milliards de personnes qui vont l'utiliser un petit peu chaque jour. Et donc, c'est le même problème que pour pas mal de choses en écologie. Moi, en tout seul, je n'ai pas beaucoup d'impact, mais fois 1 milliard... ça devient non négligeable. Donc ça, c'est un premier problème.
Au-delà de l'impact environnemental, un deuxième point d'attention concernant l'intelligence artificielle générative concerne les données. On l'a vu, pour fonctionner, l'IA va s'entraîner sur une grande quantité de textes.
Et les textes, on ne peut pas les trouver à 10 endroits. Soit on les trouve sur des sources libres, comme Wikipédia, mais qui sont avant tout là pour tout le monde. C'est un bien public, Wikipédia, quelque part. Ou alors dans des œuvres comme des livres, qui sont soumis à un copyright, ben quelqu'un l'a écrit et gagne sa vie grâce à cet ouvrage. Et donc un des problèmes, c'est que en fait, ces sociétés ont pillé tous ces sites, ont pillé ces livres, après monétisent ça, et en fait privent de revenus, ben, d'une part les auteurs, mais parfois même des communautés entières. Donc par exemple, on a des sites participatifs qui sont en train de s'effondrer complètement, et donc en fait ici on est sur un appauvrissement de choses qui étaient en fait essentielles et qui, de façon paradoxale, forment le terreau de toutes ces IA.
Ces questions de droit d'auteur rejoignent alors toute une série de questions d'ordre juridique, si bien que l'utilisation de ces IA devient encore plus un sujet interdisciplinaire. Olga Thierry est doctorante à l'Université de Namur et travaille justement sur le droit du numérique.
Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait que l'IA, par définition, elle utilise énormément de données. Donc il faut la voir vraiment comme un moteur qui, pour avoir justement, pour pouvoir fonctionner, a une sorte de pétrole. Et le pétrole, ce sont les données. Et ces données-là, justement, elles sont reliées à toi comme à moi, elles sont reliées à nos comportements, à notre vie privée, etc. Et en fait, c'est voir dans quelle mesure on utilise ces données, pourquoi, etc. Et si, en fait, on les utilise comme le droit l'encadre, en fait, finalement.
Si l'IA s'entraîne sur une grande quantité de textes, la plupart des chatbots actuels utilisent également les données issues de nos conversations avec eux. D'où l'importance, comme l'explique Olga, de bien faire attention à ce qu'on leur communique.
Alors, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de ne jamais transmettre d'informations qui vous concernent directement, donc liées à votre identité, à votre santé, etc. Parce qu'en fait, ces données sont réutilisées, littéralement, pour entraîner l'IA, et ça peut porter atteinte en fait à votre vie privée. Dans quel sens? C'est le fait qu'on va pouvoir après évidemment vous cibler pour de la consommation, pour des recommandations, etc. Et donc en fait que vous allez, j'aime bien utiliser cette phrase pour les étudiants, c'est-à-dire que l'IA, vous la voyez comme un service qui vous est rendu, mais n'oubliez pas que vous lui rendez service aussi d'une certaine manière avec vos données.
Bien heureusement, l'intelligence artificielle, au sens large, propose de nombreux avantages. Elle permet de faciliter et d'améliorer le traitement de nombreuses tâches, sans pour autant prendre la place de l'intelligence humaine.
Et pour moi, ce qui est le plus intéressant, c'est pas tellement de remplacer l'humain, d'automatiser des tâches existantes, mais plutôt de résoudre des tâches qu'on ne savait pas faire autrement. On a des télescopes qui vont balayer le ciel à longueur de nuit et arriver à des quantités astronomiques d'images qui sont impossibles à regarder. Il y a juste de trop. Et donc là où l'IA peut aider, c'est qu'elle peut digérer tout ça et automatiquement pointer des événements intéressants pour un astronome, dire là, il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé, ça correspond à aucun objet que vous m'avez déjà montré auparavant, regardez. Et là, tout d'un coup, eh bien, on permet à l'humain de faire quelque chose qu'il n'était pas capable de faire, c'est-à-dire surveiller l'intégralité du ciel tout le temps, grâce à l'IA qui va lui montrer où regarder. C'est toujours l'humain qui regarde. L'IA ne fait que lui montrer où regarder.
Un autre domaine qui se transforme grâce à l'intelligence artificielle, c'est la médecine. L'IA aide notamment à détecter des tumeurs, dépister des maladies plus rapidement, ou encore à améliorer les diagnostics des médecins. C'est sur cette question que travaille Yasmine Akaishi, doctorante en informatique à l'Université de Namur.
Mon sujet de thèse, je travaille du coup dans l'intelligence artificielle, plus spécialement dans le federated learning et en utilisant des approches symboliques et interprétables. Ça veut dire quoi? Déjà qu'on peut appliquer dans le domaine médical et par exemple qu'on peut... le federated learning, c'est quand on apprend des données distribuées. Par exemple, on peut prendre le cas des hôpitaux. L'idée, c'est d'utiliser les données sans les déplacer, en gardant leur confidentialité et aussi en utilisant les approches explicables et symboliques qui vont nous permettre d'avoir des modèles qu'on peut comprendre, nous, les êtres humains, et qui seront compris par les médecins pour pouvoir les valider, oui ou non, etc.
Ainsi, comme l'explique Yasmine, les modèles utilisés dans les hôpitaux deviendraient plus adaptés pour aider les médecins dans le processus de diagnostic, permettant ainsi un traitement plus efficace des patients. D'ailleurs, si la place de l'intelligence artificielle dans le domaine médical t'intéresse, on en parle plus longuement dans l'épisode consacré à la santé. N'hésite pas à le découvrir juste après celui-ci. On le voit, l'intelligence artificielle est réellement un outil ouvert à de très nombreuses disciplines, ce qui permet aussi aux chercheuses et chercheurs de découvrir d'autres matières.
Et ça, c'est clairement quelque chose qui est génial avec l'IA actuellement. Quand je regarde les collaborations que j'ai collaboration en médecine, J'ai des collaborations avec des astronomes, des physiciens. J'ai des collaborations ici aussi depuis plusieurs années avec Laurence Morand, qui est professeur spécialisé dans la langue des signes. Et donc, on utilise l'IA pour créer des outils pour la communauté sourde et malentendante. On a un vrai impact sur une communauté qui en a grandement besoin, qui n'a pas beaucoup d'outils à la base. On a des collaborations avec, en fait, un peu tous les domaines, l'informatique et l'IA en particulier, est vraiment au centre. C'est vraiment ça qui est chouette avec ce métier-ci, c'est qu'on découvre plein de choses.
L'intelligence artificielle offre ainsi de nouvelles perspectives à de jeunes chercheuses et chercheurs comme Yasmine, Olga et Simon. Ainsi, l'informatique s'ouvre à de nouveaux défis, donne accès à de très nombreux métiers diversifiés et pleins de sens, mais aussi à la recherche scientifique bien éloignée des clichés habituels.
La communication des chercheurs, elle est hyper importante pour donner une image réaliste de ce qu'on fait. Moi, quand j'avais 14 ans, je pensais que les scientifiques, ils étaient en blouse blanche dans leur labo, que si t'avais pas une éprouvette à la main et des lunettes bizarres au cas où ça explose, t'étais pas scientifique. Et je suis pas habillé en blouse blanche aujourd'hui, et mon ordinateur ne risque pas d'exploser quand je lance mes modèles.
Ça peut paraître un domaine impressionnant et exigeant, mais y a pas un profil parfait pour ce métier-là, que ce soit la recherche, la technologie et la science, et que surtout, qu'on peut être différent, sensible, artiste, et aussi aimer la technologie et la science. Il faut juste avoir confiance et avoir surtout la curiosité.
Quand je suis arrivé à l'université, j'avais déjà une petite idée de c'est quoi un langage de programmation, etc., parce que j'avais la curiosité de m'y intéresser un petit peu. C'est pas du tout obligatoire, il y a des gens qui découvrent sur le tard que ça leur parle l'informatique, qui découvrent la programmation en s'inscrivant en informatique. Mais ils réussissent d'autant mieux, ils se sentent d'autant mieux épanouis qu'ils sont curieux. Parce qu'à l'université, de façon générale, on donne pas toutes les clés en main aux étudiants. Il y a une grosse partie de recherche personnelle à mener par soi-même ou de références à avoir. Il faut réussir à avoir le recul sur ce qu'on fait. Et pour ça, il faut être curieux. Et la bonne nouvelle pour les gens qui écoutent ce podcast, c'est que c'est déjà un bon indicateur qu'ils sont des gens curieux. Mais donc, je les encourage à encore plus aller sur Internet, sur YouTube particulièrement. Il y a énormément de sources de vulgarisation sur plein de domaines. Et c'est jamais du temps perdu de voir de la vulgarisation et de se cultiver. Parce que ça n'a jamais été aussi facile et en même temps, ça n'a jamais été aussi important pour chaque être humain qu'on est de le faire. Et de le faire continuellement, il n'y a aucun âge pour commencer à apprendre.
Et c'est ainsi que se termine cet épisode sur l'intelligence artificielle. Alors, comme Simon l'a souligné, si toi aussi tu es intéressé par les études et les métiers en lien avec l'IA ou l'informatique en général, n'hésite pas à te renseigner, à rencontrer des passionnés, à poser toutes tes questions et surtout à continuer d'éveiller ta curiosité. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast sur l'intelligence artificielle. On espère qu'il t'aidera à y voir un peu plus clair sur ce sujet d'actualité si important. Merci à Benoît Freinet, Michael Lobet, Simon Lejoli, Olga Thierry et Yasmine Akaishi d'avoir contribué à cet épisode. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Au fait.
Au fait, un podcast réalisé par le Confluent des Savoirs et le service audiovisuel de l'Université de Namur. Avec le soutien de la Wallonie.